France Inter, franceinter.com. CO2 mon amour, avec Paprec, recyclage des déchets des industries et des collectivités.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, donc CO2 mon amour, avec aujourd'hui Claudine Lapersonne et Stéphanie Coulon à la technique, et assisté de Jean-Christophe Pinaza, Jean-Baptiste Audibert, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Commencer par une petite humeur. Allez, on y va. Une bonne humeur d'ailleurs en provenance d'Australie, ce grand pays là-bas, en bas, comme disent les autochtones, avec ses plages, ses déserts et son premier ministre Kevin Rudd. Alors rappelez-vous, celui qui, à peine élu en décembre dernier, ratifiait déjà le protocole de Kyoto. Et pour l'ouverture du Parlement cette semaine, donc Kevin Rudd a demandé pardon. Il a demandé pardon au peuple indigène d'Australie pour tout ce qu'ils avaient subi. Eh bien, figurez-vous que ça nous a plutôt rassurés, parce que une espèce qui est capable de s'excuser auprès de ses semblables ne peut pas être foncièrement mauvaise. Alors, allons-y pour voir. On ouvre notre encyclopédie à la page Australie. Nous sommes dans les années 1770. Le capitaine Cook, qui n'est pas seulement une marque de sardines, débarque dans une terre inconnue du Pacifique Sud et rencontre des indigènes qui cueillent les fruits sauvages, chassent les marsupiaux, jouent au boomerang et font quand même assez peu cas des verroteries que les hommes blancs leur proposent. Sans trop se poser de questions, Cook en conclut que les aborigènes d'Australie ne sont pas assez nombreux, ni bien armés pour faire obstacle à la civilisation. Il applique donc le principe dit de la terra nullius, ou terre inhabitée. Il plante le drapeau de la couronne et annexe le tout au nom de sa majesté britannique. 7,5 millions de kilomètres carrés confisqués au nez et à la barbe de ses occupants qui, excusez du peu, n'habitait là que depuis 50 000 ans. Alors, si pour vous c'est pas le casse du millénaire, je sais pas ce qu'il vous faut. Sans compter les kangourous, les koalas, les ornithorynques, les dingos, les cacatoès, etc. J'en passe, c'est d'autres et des meilleurs, des espèces à plumes, à poils, à écailles, de l'île continent, avec ses déserts, ses petits paradis, ses rochers, ses arbres et autres lieux sacrés pour les aborigènes, où d'après eux ont élu domicile les âmes immortelles qui viennent habiter le temps d'une vie. 200 ans plus tard, là nous sommes le 26 janvier 1988, opération boomerang des premiers habitants d'Australie. Eh oui, l'un d'eux débarque sur la côte d'Angleterre, il plante le drapeau aborigène en Angleterre et déclare qu'il annexe ce nouveau territoire au nom du peuple Koori. Ce qui fait rire tout le monde, à part peut-être Madame Thatcher. Conclusion, il aura fallu 2 siècles de patience aux aborigènes d'Australie pour qu'un jugement de la Haute Cour d'Australie confirme que leur pays n'avait jamais été terra nullius. C'était en 1992. Alors tous nos encouragements à Kevin Rudd et à ses compatriotes pour leur tentative de réconciliation. Et puis tenez, cette semaine, quand on entend la Chine et la Russie plaider pour la démilitarisation de l'espace, bon, on s'en doute, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. N'empêche, on se dit, les océans, l'Arctique, l'Antarctique, l'espace et tout le reste, pour protéger tout ça, ce qu'il nous faut, ce n'est pas le principe de la Terra Nullius, mais son contraire, si ce n'est à personne, et bien surtout que ça le reste. Alors dans cette émission qui empêche de polluer et de réchauffer en rond, donc un véritable magazine, c'est-à-dire que à chaque page tournée, vous aurez donc un sujet différent. Dans quelques instants, Jean-Marie Pelt, suite de notre série sur les religions du monde et la nature, nous parlerons du taoïsme avec Jean-Marie Pelt. Et puis nous irons dans les Alpes-Maritimes rejoindre un ingénieur qui s'appelle Guinègre et qui a inventé une voiture à air comprimé. On fera le point avec elle. C'est pas pour tout de suite, hein, dans les grands magasins. Non, il va falloir encore attendre un petit peu. Mais c'est intéressant de voir où cet homme en est. Et puis alors un dossier avec Terre Sauvage et Nicolas Pion, quelle place pour les loups et les ours en Europe? Ouais, donc sujet aussi chaud, avec pas mal de débats, donc là ce sera notre côté naturaliste. Et enfin, nous compterons notre CO2 avec Elisabeth Laville et nous réfléchirons à notre régime carné et à notre viande qui arrive dans notre assiette. Voilà, donc avant de digérer tout ça, je vous propose Jean-Louis Murat, Téléprix. Allez, c'est parti.
S'en vont mes mots, tout s'en va, jeté au vent. temps se languit, ton trop loyal servant. Maigres amours finiront tout en chanson. Cruel amour par des cruelles façons. Ta prière par devant toi, j'oubliais tant ma misère. Corps aveuglés, tout nous cache la beauté. Cruel amour qui ne s'ouvre qu'à moitié. Cruelle chose, oppressoir, cruelle fille. Tu m'as donc fait si insensé, si furieux. Vaine crevasse que j'en insulte les cieux.
Eh bien, ça y est, nous respirons un grand coup et nous retrouvons qui ? Dites-nous tout.
Jean-Marie Pelle.
Ouais, gagné. Quelle surprise ! Formidable en ce début d'émission. Alors, cher Jean-Marie, on va parler du taoïsme aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre grand tour des religions et de leur rapport avec la nature. Allons faire un petit tour en Chine.
Le taoïsme, c'est une très ancienne religion de la Chine qui a eu énormément d'influence en Chine, dont on ne sait pas exactement qui est le fondateur. On dit que c'est Lao Tzu, mais c'est peut-être un personnage mythologique. Mais quand vous, occidental, vous approchez le taoïsme, il faut marcher sur la pointe des pieds et il faut débrancher un certain nombre de circuits que nous avons dans la tête.
Il faut changer de logiciel. Hein,
c'est un autre logiciel. Ouais. Il y a des aphorismes, il y a un langage allusif, un langage symbolique, un langage mystique. Mais j'ai essayé de rentrer dedans, je l'ai lu entièrement, c'est d'ailleurs un texte assez court. L'idée, c'est qu'il y a une essence de toute chose et qu'on appelle le Tao. Mmh. C'est ce que nous appellerions Dieu. Le Tao, c'est ce qui fait que tout se tient, que tout fonctionne.
C'est-à-dire que tout est imbriqué, emboîté ou...
Tout est imbriqué, emboîté, intriqué, régulé. C'est d'écologie, en fait. L'Occident le discrimine. C'est blanc, c'est noir. Oui. C'est permis, c'est défendu. 50 à l'heure, il n'y a pas de PV. 51, il y a un PV. Ça, c'est l'Occident.
Oui, bien sûr.
Les Orientaux, ce n'est pas du tout comme ça. Et cet équilibre global, ce n'est pas seulement celui de la nature, c'est aussi celui de la société. Et comment il fonctionne, cet équilibre ? Alors, il fonctionne par l'imbrication étroite des contraires que sont le fameux yin et le fameux yang. Il faut peut-être rappeler peut-être que le yin est féminin et qu'il est symbolisé par ses creux, les vases, les vallées, à ce qui est un peu flou, les nuages. Et puis, le yang, il est masculin. Alors lui, c'est plutôt les montagnes, c'est ce qui est dressé.
C'est le soleil.
C'est le soleil.
Ah oui, le type s'est réapproprié le soleil, tandis qu'il a laissé l'hiver à la femme et l'été au...
Et l'été au l'homme. L'homme s'est bien yang. Servi. Ouais. Et c'est les animaux mâles. Et puis c'est le dragon, surtout.
Ah oui.
Le fameux dragon chinois qui est typiquement yang. Enfin, bref, tout ce qui est chaud et pénétrant, c'est masculin. Alors, le yin, il est terrestre. Et le yang, il est céleste. Et alors ces deux pôles, ils s'expriment surtout dans la sexualité, naturellement, où il y a cette idée qui n'est pas présente chez nous, que chacun capte l'énergie du partenaire et s'enrichit en énergie.
D'accord.
Donc la sexualité est considérée comme une bonne chose.
Et il y a ce texte, c'est une batterie, quoi, pour se recharger.
Oui.
Pour texte, donner et se recharger.
Ce texte, oui, c'est extraordinaire. Huan Di coucha avec 1200 femmes, en une nuit,
oui, oh, ça va, oui,
et devint immortel.
Oui.
Les gens du commun ont une seule femme et se détruisent la vie. Savoir et ne pas savoir comment cela ne produirait-il pas des résultats opposés.
Oui.
Alors voilà une phrase, évidemment, de ces 1200 femmes qui couchent avec Andy, qui ferait s'écrouler le Vatican.
Oui, c'est... pas que lui, d'ailleurs.
Enfin, bon, Andy aussi,
oui,
il s'écroulerait aussi. Mais vous voyez, il y a à la fois une sorte de provocation et une sorte de jeu.
Mmh.
Presque dire, quand on lit le Tao, pour prendre un terme à la mode, que parfois c'est ludique.
Oui.
Hein, c'est parfois ludique. Alors, il y a cette belle idée, la nature est partout, hein. Dans le taoïsme, la nature est omniprésente, mais il y a l'idée qu'il faut se couler dans le mouvement de la nature.
Oui, ne pas aller à contre-courant.
Ne pas aller à contre-courant.
Il faut faire avec la nature.
Il faut faire le non-agir, il faut se laisser porter.
Oui.
C'est l'idée qu'il faut laisser venir les choses. Alors, j'y ai trouvé une sorte d'idéal de... C'est pas d'insouciance par rapport à la vie, de spontanéité, de liberté, de communion avec la nature. En fait, tout ce qu'on trouve plus chez les Chinois d'aujourd'hui.
Oui,
les Chinois, on fait exactement le contraire.
C'est un peu loin, hein,
de ce que leur a suggéré.
On voit le massacre écologique aujourd'hui.
Eh bien oui, tout à fait. Ouais. Leur propre religion. Et alors le Tao condamne la force, les armes, la puissance, le pouvoir, la domination. Il admire au contraire des saints hommes. Et alors ces saints hommes sont les mêmes que ceux du christianisme. Il y a par exemple cette idée, ne prenez pas la première place, allez à la dernière place. On retrouve parfois des textes qui sont presque des textes de l'évangile.
D'accord.
Et puis il y a l'idée du vide. Il faut faire le vide en soi. Et alors vous serez rempli par toutes les forces de l'univers. Et Lao Tzu était censé méditer, mais on avait besoin de lui, donc on l'a brusqué. Alors il est revenu à lui, il était en extase, et il a dit « Je m'ébattais dans l'essence des choses ».
Bien.
Hein, c'est beau ça. Alors j'ai trouvé aussi que le taoïsme n'était pas moderne. Il n'aime pas la technique, il n'aime pas les villes. Bon, il n'aime pas trop le progrès, donc il est de nouveau complètement en contradiction avec la Chine contemporaine.
Et le Parti communiste n'a pas fait interdire alors,
Si, hein, vous avez mis le doigt où il fallait, oui. Parce qu'il y en a une autre religion de la Chine ancienne, c'est le confucianisme, de Confucius, qui est à peu près contemporain.
Mm-hmm.
Mais Confucius était plutôt un phénomène philosophique. Il disait, on peut croire à Dieu, mais il ne faut pas trop le fréquenter. Lui voulait une belle organisation de la société, bien hiérarchisée, bien organisée, où les enfants obéissent aux parents, où la femme obéit à son mari et où tout le monde obéit à l'empereur.
Tout baigne, d'accord.
Alors, entre les deux, le cœur des Chinois a balancé et ils ont trouvé un adage typiquement chinois. On peut très bien être confucianiste dans la journée, dans la vie sociale, et totalement taoïste la nuit. Et ça a donné dans la modernité, on peut donc très bien être communiste et capitaliste en même temps.
Oui.
C'est parce que leur religion les y autorise. Ça fait partie du yin et du yang. L'un s'emboîte dans l'autre.
Et puis, pour la nature chinoise, on en avait déjà parlé. Et là, c'est quand même assez inquiétant. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe
Ben oui, c'est très inquiétant, oui.
Mais il faut peut-être rappeler une chose, c'est que nous aussi, je veux dire qu'on est très contents d'avoir des produits pas chers,
oui,
et donc que l'on participe à cette pollution, que l'on délocalise en quelque sorte.
Nous allons faire une incise. Nous devons pousser la croissance. Pour cela, nous devons consommer. nous allons donc consommer, nous allons beaucoup consommer. On va consommer tous les produits chinois et notre commerce extérieur sera dans un déficit effroyable. Et il faudra vendre un nombre colossal de centrales nucléaires pour remonter le commerce extérieur.
Voilà. Et de TGV.
Et on vendra un peu de TGV aussi et des Airbus.
Jean-Marie, une petite citation sur le taoïsme.
Oui, les réflexions du Tao Te Ching, qui est le grand livre du taoïsme sur l'art de gouverner, sont d'une actualité saisissante.
Ah,
voilà. Ouais. Écoutons bien. Plus il y a de règlements et de prohibitions, plus le peuple s'appauvrit. Plus le peuple est habile et ingénieux, plus on voit surgir des inventions inutiles.
Oui.
Plus le flot des règlements et des lois monte, plus il y a de malfaiteurs et de bandits. C'est pourquoi l'homme sage dit « Je pratique le non-agir et le peuple se transforme de lui-même. J'observe le calme pur et le peuple se rectifie de lui-même. Je n'agis pas pour le lucre et le peuple s'enrichit de lui-même. Je suis sans désir et le peuple revient à la simplicité primitive. » Alors, j'avais le sentiment qu'il serait opportun de dédier à notre président de la République ce texte, puisqu'il est très engagé dans les discussions avec la Chine. Je pense que ça correspond tout à fait à sa manière de voir les choses.
Merci beaucoup, Jean-Marie Pelt. Et donc, je vous renvoie à cet ouvrage, Nature et spiritualité, aux éditions Fayard. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
On n'a rien compris au progrès. Tout ça, c'est pour notre bien. Dites au passage, vous pourriez pas aller calmer un peu, CO2, mon amour.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
So far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away. Far away from me. You're so far away.
Eh bien, après la Chine et le taoïsme, on a fait un petit tour en Angleterre avec Dire Straits. Merci à Karl Vasseur, notre programmateur, de l'avoir choisi donc ce disque. Et on va aller dans le 06, autrement dit les Alpes-Maritimes, retrouver un homme qui est ingénieur qui s'appelle Le Guinègre. Ça fait pas mal de temps. Moi, c'est la troisième interview que je fais avec vous, Guinègre. Inventeur d'une voiture, avec votre équipe, d'une voiture à air comprimé, qui intéresse aujourd'hui quand même assez fortement les Indiens. Alors, vous nous en rappelez, alors c'est pas du tout encore en vente, on ne va pas s'affoler tout de suite, mais aujourd'hui, vous nous en rappelez, s'il vous plaît, le principe, Guinègre.
Alors, en fait, le principe est simple. Bon, on a travaillé 4 ans avant 1996, on a travaillé sur des moteurs thermiques. On a essayé de faire des moteurs thermiques qui polluent le moins possible. On s'est dit que pour rouler en ville, on a besoin de très, très peu d'énergie. Et en 1996, est arrivée l'idée de pouvoir utiliser de l'air comprimé pour faire avancer la voiture lorsqu'elle circule en cycle urbain. Bon, le principe est à la fois simple et un petit peu ardu. On va comprimer de l'air. L'air n'est pas une énergie. L'air, c'est un vecteur d'énergie. On va comprimer de l'air et on va utiliser cet air comprimé en le détendant pour produire un travail et faire marcher une voiture.
Alors, bien sûr, pour comprimer cet air, on utilise de l'énergie. On utilise de quoi ? De l'électricité, a priori, donc.
Ben, on peut utiliser un petit peu ce qu'on veut pour comprimer de l'air. On peut utiliser de l'électricité, mais si on est vraiment écologiste, on peut utiliser de l'eau, un courant de fleuve, on peut utiliser des voltaïques.
Et alors, ce qui sort quand même du pot d'échappement, il faut quand même le rappeler, c'est quand même extrêmement propre.
Assez de l'air.
Voilà.
Là, c'est de l'air. On comprime de l'air, on le filtre à l'entrée, c'est de l'air. Bon, si on voulait, on disait à une époque, si on voulait s'amuser à mettre des filtres à charbon, etc., on pourrait presque sortir de la voiture de l'air médical. Bon, ce serait assez stupide, mais ce serait assez amusant quand même.
Alors, Guinègre, l'autonomie de cette voiture aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? On transporte combien de personnes et pendant combien de temps ?
Alors nous, on va sortir trois modèles. Donc il y a la OneCats qui fait 3 ou 5 personnes, il y a la MiniCats qui fait 3 places, c'est une petite voiture un peu genre de la Smart, avec la longueur de la Smart, et on aura une 6 places. Selon les voitures, les autonomies ne seront pas toutes les mêmes parce qu'elles n'ont pas les mêmes quantités de réserves et puis elles ne pèsent pas pareil. Mais pour donner une idée, la OneCats, la voiture très économique, la première qu'on sortira, elle fera entre 100 et 130 km en ville. La deuxième fera la MiniCats environ 150 km. Et la grosse voiture, dans laquelle on peut mettre un petit peu plus de réserves d'air, fera entre 180 et 200 km.
Alors, certaines personnes vont vous dire, bon, 120 km c'est gentil, mais c'est quand même pas forcément suffisant. Est-ce qu'on utilise un système aussi bi-énergie ou...
Voilà, toutes nos voitures pourront être équipées du moteur bi-énergie. Alors le moteur bi-énergie, c'est pouvoir utiliser un adjuvant énergétique, une addition énergétique qui peut être un carburant, alors ça peut être de l'éthanol, ça peut être un biocarburant, ça peut être un gazole, ça peut être de l'essence. Et à ce moment-là, on va, grâce à cela, avoir une voiture qui devient autonome, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir rouler sur la route. Lorsqu'on va arriver sur la route, on va rouler avec le carburant, et là, à ce moment-là, avec des consommations très très faibles, parce que on a un système qui est très spécial, on travaille à pression constante, volume variable, et on a des voitures légères et donc on va avoir des voitures aux environs de 2. Si on utilise un gazole, environ 2 litres aux 100 km sur la route.
Alors pour recharger cet air comprimé, ça prend combien de temps ?
3 méthodes pour le recharger. On peut brancher la voiture sur une prise de courant dans son garage. Le compresseur intégré dans la voiture va fournir l'air comprimé. Ça va prendre, bon, selon les voitures, entre 3 et 6 heures, entre les petites et les grosses voitures. Vous pouvez faire un plein sur une station-service. C'est-à-dire qu'on va créer des stations-service. Bon, on peut imaginer créer des stations-service dans les supermarchés. Là, ça se fait comme un plein de voitures, c'est 2 minutes, 3 minutes. Et dernière possibilité, lorsqu'on va être sur la route et qu'on va rouler avec l'adjuvant énergétique, à ce moment-là, on a la possibilité, si on n'utilise pas toute la puissance de la voiture, de re-remplir, de refaire le plein du réservoir. Donc, ça va dépendre de la vitesse à laquelle vous roulez, et vous ferez le plein plus ou moins vite.
Alors, vous savez que les Français aiment beaucoup cette notion de vitesse, donc on va vous poser la question, ces engins peuvent rouler à quelle vitesse, Guy ?
Alors, bon, nous allons nous limiter volontairement toutes nos automobiles. Bon, les plus petites, elles vont rester dans les 110, 120 km, des choses comme ça, la toute petite économique. Les autres sont capables de rouler jusqu'à 150 km/h.
Et on n'en a pas tellement besoin.
C'est largement suffisant aujourd'hui.
Et oui.
Par contre, elles sont très nerveuses, donc elles vont accélérer dans le trafic exactement comme une voiture actuelle, il n'y a pas de problème. Mais c'est ridicule. Ce n'est plus la peine de faire des voitures qui roulent à 200.
Bien
pourtant,
sûr.
On aime bien la vitesse.
On va parler de prix. Ça va s'échelonner de combien à combien, on va dire.
Alors, bon, le prix d'une voiture, c'est le poids. Les voitures se vendent au poids. C'est assez amusant.
Et elles sont de plus en plus lourdes, donc elles sont de plus en plus chères peut-être.
Elles sont de plus en plus chères. Une voiture, grosso modo, une voiture, c'est entre 10 et 12 euros le kilo. Une voiture de classe moyenne à peu près. Bon,
ah oui, je n'avais pas vu comme ça. D'accord. Okay.
C'est moins cher que le steak.
Hein. Oui, bien sûr.
Ah ouais, c'est moins cher que la viande. Et donc, la petite voiture économique qu'on est en train de préparer, qui est une sorte de Méhari, un petit peu des temps modernes, propre, etc., c'est une voiture qui va peser 350 kilos.
Ah oui.
Donc, elle va coûter à peu près 3 500 euros.
D'accord.
Et... ça, c'est la base. Mmh. Et puis après, bon, la Mini 4 va coûter, elle sera un petit peu plus chère, elle va être aux alentours de 9 000 euros. Et la grosse voiture sera aux alentours de 13 000 euros.
Non, mais là on sait qu'il y a un marché qui est énorme, c'est sûrement sur la petite voiture, parce qu'à peu près 25% des voitures aujourd'hui circulent principalement, uniquement en ville. Hein. Ça, c'est vraiment une statistique à peu près mondiale. Est-ce
Bien
que
sûr.
C'est éligible aussi au fameux bonus ?
Alors oui, bon, il y aura certainement des aménagements, etc. Je pense qu'il va y avoir des limitations, parce que ce qui serait amusant, on sera à moins de 60 grammes de CO2. Donc comme on sera à moins de 60 grammes de CO2 au kilomètre, normalement, on serait éligible à 5 000 euros pour la petite voiture à 3 500.
Ah oui, donc effectivement, à ce moment-là, non seulement on achète la voiture, mais en plus, le fisc vous rembourse.
Voilà,
oui,
voilà on voit le client qui arrive dans la concession MDI, qui dit, bon, aujourd'hui, j'en prendrai 10.
C'est ça. Oui, non, ça ne va pas le faire. À mon avis, ça va fonctionner.
Non, ça ne va pas le faire. Je pense que ce sera limité en pourcentage par rapport au prix de la voiture qui aura... que la prime pourra être de 40%, etc., ou je ne sais pas combien. Mais bon, il y aura une limitation, c'est sûr.
Alors Guinègue, moi je vous connais un petit peu, vous êtes un homme tout à fait opiniâtre. Vous sentiez très très bien déjà depuis longtemps qu'il y avait des renversements, on va dire, de tendance. Beaucoup de gens ont souri, des ministres de l'industrie vous ont fait passer pour un doux rêveur. Ce n'est pas grave, vous avez continué allègrement et vous avez eu parfaitement raison. Et il y a quand même des gens qui ne sont pas exactement des amateurs. C'est le groupe Tata, qui est quand même le premier groupe de véhicules en Inde, et qui là, c'est quand même très intéressé à vous, et vous avez signé un contrat avec eux.
On a signé un contrat de cession de notre technologie pour l'Inde, mais seulement pour l'Inde. Donc en fait, ils ont le droit aujourd'hui de fabriquer des voitures s'ils le souhaitent avec notre technologie, etc. Bien sûr, on travaille ensemble pour toute l'élaboration des choses qui vont venir.
Et aujourd'hui, en France, on va vous dire quand est-ce qu'on peut trouver ça, quoi.
Nous, on est en train de préparer notre première voiture, la fameuse OneCat dont on parlait tout à l'heure. Nous pensons l'avoir terminée à la fin de cette année, avoir des pré-séries à la fin de cette année, et de démarrer la vente directement dans notre usine de carrosse en tout début 2009.
Alors donc, pas de précipitation. Il ne s'agit pas de se dire que ceci va remplacer les voitures donc actuelles, loin de là. L'homologation donc n'a pas encore eu lieu. Donc si elle a lieu en 2009, ce sera bien. On souhaite vraiment qu'il y ait une centaine de kilomètres qui soient effectués grâce à cet air comprimé, parce que c'est vraiment là, effectivement, la nouveauté. On a aussi la voiture à pédale. Hein, remarquez bien. Là, à mon avis, ça, c'est déjà un truc qui peut être parfaitement opérationnel. Mais c'est intéressant parce que Guinère est un homme qui a toujours eu... énormément de fans et aussi énormément de détracteurs. Donc, il fallait aussi lui donner la parole. Et puis après, on verra. Et puis bon vent à cette invention, en souhaitant qu'elle voie le jour le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas là tout de suite dans les 3 mois et demi. Des informations, bien sûr, sur notre site. Et puis, comme c'est un magazine de nature et d'environnement, on va s'intéresser maintenant à la nature. Ah, on pourrait remonter donc dans les Alpes-Maritimes, arriver dans le parc du Mercantour et entendre les loups chanter qui sont revenus par leurs propres moyens. Ils n'ont pas été balancés par des écolos en hélicoptère, pas du tout. Non, ils sont arrivés en 1992, au mois de novembre. Ils sont venus de l'Italie voisine et ça nous permet de feuilleter le numéro de Terre Sauvage, notre partenaire du mois de février. Ours et loups, quelle place pour eux en Europe? En fait, comment cohabitent les régions européennes et leurs grands carnivores emblématiques que sont le loup et l'ours? Ça n'a pas manifestement été une enquête extrêmement simple. Et donc, Nicolas Pion, vous avez travaillé. Difficulté de mener une enquête. Hein, si vous aviez enquêté sur un trafic d'uranium enrichi, ben je crois que ça n'aurait pas forcément été plus simple. Racontez-nous.
C'était un peu compliqué, à vrai dire. Donc, je suis gascon, donc j'ai tendance à dire que c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses.
Oui.
Et en l'occurrence, dès le début, là, elles sont tombées les unes après les autres.
Parce qu'on a l'impression que c'est presque du secret militaire. Hein, donc...
Il y a une inertie extrême sur ce sujet.
Ouais.
Quand on démarre une enquête sur ce thème-là, on envoie évidemment quantité de messages électroniques, on passe quantité de coups de fil pour avoir des informations qu'on juge élémentaires, par exemple des informations statistiques. Et là, très clairement, on se heurte à un premier problème qui est le manque de données, ou alors des données qui sont complètement incohérentes les unes avec les autres.
Alors on va voir avec vous les différentes régions, on va passer des Asturies au parc du Mercantour, de la Roumanie à la Suède, des Abruzzes à l'Autriche. Est-ce que quand même au départ, est-ce que la mythologie a une incidence sur les rapports actuels que nous avons avec ces animaux-là ?
Franchement, c'est délicat, j'ai envie de dire un petit peu, parce qu'il y a une part de la mythologie qui relève de la biologie. Il y a quand même quelque chose qui me gêne dans cette part de mythologie, ce que j'ai envie d'appeler la perversion. Parce que pour moi, il y a quand même un travail, on va dire, anthropologique, sociologique. Quand on s'intéresse à ces légendes, on a envie d'en savoir plus sur des histoires, comment ça a été créé, etc. Et très vite, on tombe dans des histoires de cul. Le loup qui est l'amant, qui est le croqueur de femmes, la loup, c'est un petit peu la même chose.
Lupanard, d'ailleurs, effectivement, le nom des bordels, ça vient de ça.
Quand on s'intéresse vraiment au rapport entre actuel, là, en 2008, c'est des arguments, bon, qui, à mon sens, ne tiennent pas trop la route.
Alors, Nicolas Pion, on va d'abord aller en Espagne. Hein. Vous quittez Bordeaux, vous allez en Espagne. On va aller dans les monts Cantabriques, on va aller dans les Asturies. Et là, qu'est-ce que l'on rencontre comme système ? Quelle acceptation ? Comment ça fonctionne là-bas ?
Ça fonctionne plutôt bien pour une première raison. C'est qu'il y a des loups et des ours. Ça paraît tout bête, mais c'est quand même la condition sine qua non.
Alors, on va dire qu'il y a 2500 loups en Espagne aujourd'hui et à peu près 130-140 ours.
Ouais, c'est à peu près ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont des milieux forestiers. Déjà, les habitats naturels du loup et de l'ours. Et puis, ça signifie aussi qu'ils ont su préserver, entre guillemets, ces espèces. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait comme en France, ils n'ont pas attendu, comme ça a été le cas avec l'ours, qu'elle soit éliminée.
Complètement éradiquée.
Ouais. Donc, ils ont su les protéger à temps. Et notamment, c'est le cas de l'ours qui a été sauvé in extremis, on va dire, mais qui a été sauvé. Et du coup, il y a eu une permanence de ces grands prédateurs.
Il y a une culture de l'ours, tandis que chez nous, il y a une coupure.
Il y a une coupure, c'est-à-dire qu'en France, les bergers, à partir du moment où il n'y a plus eu d'ours, ils ont perdu l'habitude de vivre avec lui. Pourquoi mettre des chiens de protection ?
Oui. Tandis que là, donc ça a fonctionné donc dans les Asturies. Et quand même, il y a une loi, ça rigole pas hein, non plus. Hein. Donc il y a vraiment une relation entre la police locale et les associations.
Il y a une relation très très forte, si vous voulez. C'est que pour éviter ce qui s'est passé en France, pour éviter une dégringolade des effectifs, voire une extinction, on durcit la loi. C'est-à-dire qu'on ne va pas tirer une espèce protégée. Donc là, la loi est très sévère. Hein. Dans le cas d'un ours, ça peut aller directement à la prison. Hein.
Ah oui, c'est ça. Et puis c'est appliqué.
C'est appliqué.
Oui.
Et puis l'amende, évidemment, c'est systématiquement une amende dans ce cas-là. L'amende est sévère. Et il y a eu une collaboration très, très forte avec l'association. Je pense notamment à la fondation Osso Pardo, qui protège donc l'ours brun, qui est une association qui a été créée en 1992 et qui fonctionne bien maintenant, qui est un véritable petit groupe avec 40 employés. Quand on s'intéresse un petit peu sur le terrain, comment cette association a été créée à partir de rien, je dirais à partir de la volonté d'un homme et de quelques-uns de ses camarades, d'un homme qui s'appelle Guillermo Palomero, qui est le dirigeant actuel. Comment a-t-il fait pour réussir à intéresser les gens à cette cause dans une région qui est quand même une région de chasse, où c'est une tradition, dans une région agricole ? On lui pose la question. Il répond clairement, un élément qui a été important, c'est la délation.
Ah oui, d'accord, c'est la dénonciation quand même. Ah oui.
C'est la dénonciation, c'est violent.
C'est-à-dire qu'on dénonçait le braconnier, c'était ça.
C'est ça, on surveille, on piste dans les petits chemins, on repère les gens qui continuent à faire du braconnage. Ça suppose des scènes surréalistes quand même. La délation, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à concevoir, c'est très violent. Guillermo Palomero le reconnaît lui-même, c'est violent, mais c'était nécessaire. Pourquoi ? Parce que quand on réussit, entre guillemets, à coincer des gens et à les faire épingler par la police locale, les autochtones, les habitants se rendent compte que, tiens, eux, c'est peut-être pas des rigolos.
Oui, c'est ça. Alors quand même, il y a 20 ans, ça c'est le côté aussi positif, bon, il n'y avait rien, ils le disent, et l'ours est devenu en fait une chance pour la bonne réputation écologique du territoire. Et maintenant, donc, ça fonctionne quand même pas mal. Sur le loup, c'est peut-être un tout petit peu différent, parce qu'en fait, il y a des tirs de complaisance, et là, c'est peut-être pas la même musique, parce que vous dites que c'est une véritable soupape aussi pour favoriser l'acceptation.
En ce qui concerne le développement de cette région, c'est évident que le fait d'avoir du loup et de l'ours sur un territoire, c'est quelque part le signe donc qu'il y a des milieux forestiers qui sont préservés, c'est un parc naturel, c'est des beaux paysages. Donc il y a ce label écologique qui attire les gens, qui attire les touristes. Ouais. C'est très attractif. Et pour des petits villages, parce que c'est quand même perdu, c'est quand même isolé. On sait pourquoi on y va. Et désormais, on y va pour le loup et pour l'ours.
Mais on déconseillera, Nicolas Pion, au loup qui vient d'Italie, de passer par le Pays Basque. Il vaut mieux qu'il aille directement dans les Pyrénées, mais pas par le Pays Basque, parce que là, ça rigole pas. Il n'a pas tellement de chance de s'en sortir.
Le loup a eu plus vite fait de revenir, effectivement, depuis l'Italie. Il est passé par le Vercors, oui. Il est passé par le Massif central, il est revenu dans les Pyrénées-Orientales en 1998, alors qu'il aurait très bien pu, puisqu'il y avait toujours des loups en Espagne, il aurait très bien pu revenir par les Pyrénées directement, il était beaucoup plus près, mais non. Alors on s'interroge, pourquoi ? Pourquoi le loup a plus vite fait de traverser la France du Sud, clairement, oui. Plutôt que de traverser l'Espagne du Nord, alors qu'il est juste à côté, parce qu'il se fait tirer à vue, parce qu'il se fait piéger, parce qu'il se fait empoisonner dès qu'il met un pied, une patte près du Pays Basque espagnol,
donc,
systématiquement.
Là, culturellement, c'est autre chose. On sait que c'est aussi dans le Pays Basque français qu'on a le plus d'éleveurs dans les Pyrénées. Donc là, de toute façon, il y a une espèce de blocage.
Il y a un blocage qui est absolument terrible, c'est le piégeage systématique. Il ne peut pas poser une patte, il est abattu, il est éradiqué.
On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse. Quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer. Est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque. A-t-il été déclaré au fisc?
On nous cache tout, on nous dit rien. Vous voyez, ça préfigurait un peu la théorie du complot qui est très, très en vogue, je dirais, aujourd'hui, parce que dans les émissions, lorsque vous ne parlez pas de ceci, c'est qu'obligatoirement, il y a un complot qui est derrière, c'est que vous êtes tenu par la main du marché, etc. Non, mais c'est vrai qu'on reçoit parfois des mails un petit peu sidérants sur le sujet, alors que les choses, en fait, sont beaucoup, beaucoup plus simples. Nous revenons à nos loups et à nos ours, et nous faisons ce tour d'Europe avec vous, Nicolas Pion. Et on va partir, tenez, on va partir dans les pays de l'Est. Comment ça se passe? Racontez-nous.
Si on s'intéresse à la Roumanie, c'est peut-être emblématique parce qu'il y a une forte population de loups et d'ours. Mmh. On a 5000 ours, par exemple, ce qui est quand même colossal, oui. Dans les montagnes des Carpates. Là, on a un problème précis dans le cas de la Roumanie, c'est que les scientifiques estiment que l'optimum, entre guillemets, les biologistes n'aiment pas qu'on parle de superpopulation. On va quand même en parler.
Oui,
on va parler d'un optimum, donc 3000 ours, alors qu'il y en a 5000.
Ah oui.
Pourquoi ? parce que la Roumanie a connu...
Un sympathique démocrate.
Un sympathique démocrate qui s'appelait Ceaușescu.
Ah, d'accord, oui.
Et qui s'était mis en tête de venir, toujours très modeste, le plus grand chasseur d'ours de tous les temps.
Ah oui, donc il a été surprotégé, engraissé.
Surprotégé, nourri, engraissé, parce qu'évidemment c'est quand même plus rigolo de tuer des ours qui sont très gros. Hein. Oh, bien sûr. Je ne sais pas si ça compte au double ou pas, mais en tout cas oui. Il fonctionnait comme ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec 5000 ours. D'autant plus que la Roumanie s'est orientée un peu comme les Asturies dans ce tourisme.
Ils vont faire aussi du commerce de cela avec le tourisme. Ils vont vendre des bracelets ou...
Ah, ils veulent clairement se développer avec ce tourisme-là. Le fait est, avec cette surpopulation ursine, il y a des problèmes de voisinage, on va dire, puisque les ours, ils débordent largement des forêts. Et on les retrouve en ville.
Mais d'ailleurs, vous citez un chiffre, hein, 40% en fait, de ces animaux sont transfrontaliers, hein, donc d'une manière générale, hein, on va dire.
Non d'une manière générale, donc ils naviguent un
petit
peu partout.
Ils font ce qu'ils veulent, hein, Hortefeu fera ce qu'il voudra, mais enfin, en tout cas, ça bouge comme il faut. Du côté de la Scandinavie, qu'est-ce que l'on observe ?
Là aussi, c'est quelque chose qui est propre à cette thématique. Il y a une grande diversité de cas au sein d'un même pays. C'est quasiment de vallée à vallée qu'on trouve des différences, de région à région, de pays à pays. La Suède adopte une position très protectrice à l'égard de ses loups et de ses ours. Elle essaie de gérer par des systèmes classiques et d'indemnités tout ce qu'il peut y avoir pour l'élevage. Elle essaie de trouver un bon compromis. Oui. À côté de ça,
la Norvège.
Elle a son voisin immédiat, la Norvège, ses motifs de tensions diplomatiques assez régulières.
Au pays de Rémus et Romulus, on va redescendre, on va aller dans le chaud de l'Italie, on va aller du côté des Abruzzes. Là aussi, les loups et les ours ont toujours été présents.
Ils ont toujours été présents. Un mot sur la mythologie. Si on s'intéresse à la mythologie romaine, la légende la plus connue, évidemment, c'est Romulus et Rémus, qui sont les cofondateurs de Rome, qui ont été recueillis et élevés par une louve. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des loups dans les Abruzzes, c'est-à-dire à proximité de Rome, à proximité de la capitale. Et malgré tout l'amour que les Italiens peuvent porter aux cofondateurs de la grande capitale latine, dès qu'une louve pose une patte à moins de 70 km de Rome, elle se fait flinguer.
Nicolas Pion, où vaut-il mieux être un loup, par exemple, et peut-être aussi un ours aujourd'hui ? Bon, quand on regarde le cas de la France, est-ce que c'est si dramatique que ça ?
Quand on commence ce travail d'enquête, on part du postulat que la France n'est quand même pas très bien par rapport à ses carnivores. Il y a un malaise,
les effectifs sont limités,
et on se dit que, eu égard à l'actualité relativement récente des ours qui ont mal fini dans les Pyrénées, des problèmes que ça peut soulever de cohabitation, notamment avec les bergers, on part du postulat qu'on n'est pas très bien et que ça se passe mieux ailleurs. Or, où vaut-il mieux être un loup ou un ours ? Finalement, on parlait du cas du loup en Espagne qui se fait tirer, qui se fait tuer dès qu'il s'approche du Pays Basque. C'est pas très bien d'être un loup au Pays Basque.
Oui.
Si on s'intéresse aux modes de cohabitation, je pense notamment aux apiculteurs des Asturies qui touchent des primes, qui touchent des indemnités pour pouvoir cohabiter avec ces animaux-là, pour pouvoir, avec l'ours qui peut faire des dégâts, donc ils ont des indemnités. On se rend compte qu'avec ces systèmes de primes, aujourd'hui, ils ont besoin de l'ours, ils ont besoin des dégâts de l'ours pour vivre, pour survivre, je dirais. Ah. C'est une perversion du système. Si on s'intéresse donc aux Abruzzes, en octobre, il y a eu des ours et des loups, 5 ours et 2 loups empoisonnés.
Mmh.
Si on s'intéresse à la Norvège, le Parlement norvégien a décrété qu'une population de loups était viable dès qu'il y avait 3 couples. Autant dire qu'il vaut mieux pas être un loup en Norvège.
Non, pas la peine, oui, effectivement.
La Suisse a une position très ambiguë sur la question. La Slovénie, on parle souvent des ours slovènes, on réintroduit des ours slovènes, mais la Slovénie, elle régule sa population d'ours quand même.
Mmh.
Elle essaie de prélever à peu près, entre 10, 20% de la population chaque année. Ça fait que finalement, sur 5 ans, un ours a quand même de grandes chances de se faire tirer.
Oui.
Et en France, malgré les problèmes qu'il peut avoir, on va émettre le vœu pieux.
Oui.
Que les accidents de voiture,
c'est ça, oui.
Et puis que les battues battues qui tournent mal sont désormais partie du passé. Alors que
les chasseurs sont prévenus.
Ça fait partie du passé. Et à ce compte-là, l'espérance de vie entre guillemets d'un ours est peut-être plus élevée dans les Pyrénées qu'en Slovénie. Alors qu'on parle du même ours qui est l'ours slovène.
Alors pour terminer, Nicolas Pion, les secrets de la réussite, ce qu'il faut peut-être aussi tirer comme enseignement de nos amis européens.
Savoir réagir à temps comme ils ont pu le faire, avec des effectifs qui sont en chute libre. Alors à ce moment-là, il est temps d'agir, il est temps de durcir les lois, voire de réintroduire, comme le fait la France, comme le fait l'Italie dans le parc du Trentin. La deuxième condition, évidemment, ça ne sert à rien de protéger ou de réintroduire si on n'a plus d'habitat propice à ces espèces, c'est-à-dire qu'il faut des milieux forestiers qui soient bien préservés. La troisième condition, c'est de favoriser l'acceptation sociale de ces animaux-là. Comment ? Par des systèmes d'indemnité efficaces pour les éleveurs, pour les apiculteurs, en cas de dégâts. Par le fait que la population puisse y trouver son compte, évidemment, financièrement, c'est-à-dire en développant le tourisme. C'est quelque chose qui marche fort, c'est quelque chose qui marche en Pologne, c'est quelque chose qui marche en Italie, dans les Abruzzes, c'est quelque chose qui marche dans le parc naturel de Somiedo, dans les Asturies. Et surtout, éduquer des éleveurs espagnols qui voient régulièrement des membres de l'association Osso Pardo passer. Le fait d'avoir une oreille seulement qui les écoute et de pouvoir évoquer leurs problèmes, leurs angoisses, leurs craintes, ça permet de faire passer des messages éducatifs, ça permet de faire passer des messages scientifiques.
Alors, moi, je vous renvoie vraiment à ce numéro de Terre Sauvage, Nicolas Pion, donc du mois de février. Vous retrouverez aussi, bien sûr, je veux quand même le dire, tous les mois, le petit billet de CO2 de mon amour, bien sûr, mais ce n'est pas le plus important. Et là, le dossier ours et loup, quelle place pour eux donc, en Europe? C'est bien parce que ça va aussi déranger des écolos bien français, hein, c'est intéressant. Il y a vraiment de la belle matière. On n'est pas forcément sur, comme on le disait tout à l'heure, sur le côté on-off avec Jean-Marie Pelt. Non, il y a une belle matière donc, à débat sur ce thème, donc ce numéro de Terre Sauvage. Et alors du loup tout à fait carnivore, à l'Homo sapiens qui ne l'est pas moins, eh ben nous avons une très jolie transition avec Elisabeth Laville.
On n'achète pas n'importe quoi, achetons responsable avec Elisabeth Laville. Et puis on comptera notre CO2 pendant qu'on y est.
C'est peut-être plus le moment, mais on va quand même repasser à table. Elisabeth Laville, bonjour.
Bonjour Denis.
Et là, on va toucher à vraiment un dogme, un culte en France ou en Europe, labourage, pâturage. Et on va regarder le steak là, paf, qui est très bien, il est beau, il est saignant, il est à point, absolument comme on l'aime. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les Français? On est gros mangeurs de viande, comment ça se passe?
Ah ben on l'aime, vous l'avez dit, hein, on l'aime. On l'aime, alors on peut prendre un signe révélateur de ça, c'est le nombre de végétariens en France. 2 à 3 % seulement de la population française, oui, contre 9 % en Grande-Bretagne, 8 % en Allemagne. Et dans ces pays-là, ça augmente. En France aussi un peu, mais quand même pas des masses. Vous mangez de la viande, vous, Denis?
Oui, bah oui. Bon, pas violemment, mais j'en mange. Oui.
Donc, est-ce que vous êtes le carnivore européen moyen? Je ne sais pas.
Dites-moi,
mais si vous l'êtes, vous aurez mangé dans votre vie 760 poulets, 20 porcs, 29 moutons et 5 bœufs quand même.
Ah, je me disais, je suis un peu ballonné, c'est pour ça.
Oui, non, ce qu'on peut dire en gros, c'est qu'il y a encore quelques décennies, c'était un aliment de luxe, hein, réservé, il suffit de parler à nos grands-parents, nos parents, dans certains cas, réservé aux grandes occasions, aux familles aisées, aux dimanches, etc. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en consomme de la viande quasiment quotidiennement. Et le résultat, la consommation a presque doublé depuis 50 ans.
Et comme nous le disait Jean Rochefort, on a même inventé des poulets pour pauvres, des poulets pour riches, parce qu'évidemment, il y a des conditions d'élevage qui sont différentes.
Et voilà, oui. Alors, effectivement, pour faire face à cette demande complètement démentielle, cette augmentation de la demande, on a dû surtout changer la façon dont on fabriquait la viande, si je puis dire. De fabriquer. C'est intéressant ça. D'ailleurs comme, comme terme. Et au point qu'aujourd'hui, donc c'est devenu, on est passé de petites exploitations locales, familiales, etc., à des gros élevages industriels. Aujourd'hui, 90% des veaux, par exemple, produits en France, proviennent d'élevages industriels. Donc pour vous dire, c'est vraiment une lame de fond. Et partout dans le monde, on voit les petites exploitations familiales disparaître au profit de ces gros élevages spécialisés, intensifs, etc., qui d'ailleurs souvent appartiennent, c'est vraiment une industrie, appartiennent à quelques grands groupes industriel.
Alors, lorsque l'on parle de viande, on mange un steak, c'est formidable, mais seulement en amont, il y a de l'eau, il y a des végétaux.
Bah oui, alors le problème, c'est qu'on a augmenté les rendements, du coup, avec cette agriculture, ces élevages intensifs, mais on a aussi considérablement augmenté les impacts environnementaux. Déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est que la viande n'est pas une façon super efficace de nourrir l'humanité, en fait. Puisqu'en fait, en clair, il faut produire énormément de végétaux, mais pas pour nourrir les humains, pour nourrir les animaux, qui, in fine, mangent plus de nourriture que ce qu'ils permettent de faire. Par exemple, un bœuf offre 12 fois moins de repas que les céréales qu'il a consommées, si ouais. les humains consommaient des céréales. Du coup, c'est pas terrible.
C'est-à-dire qu'entre la protéine animale et la protéine végétale, il n'y a pas photo, quoi.
Ah ben, il n'y a pas photo. Un gramme de protéine animale coûte l'équivalent de 7 à 9 grammes de protéines végétales. Donc, du coup, on pourrait nourrir beaucoup plus de monde avec un régime plus végétarien. C'est ça qu'on dit. Et beaucoup de... Ce qui est très intéressant, c'est que pendant des années, les gens qui disaient qu'il faut manger moins de viande, c'était surtout des médecins, parce notamment ouais. moins de viande rouge, parce que maladies cardiovasculaires, etc., obésité, diabète et autres. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il y a eu une campagne en Angleterre des associations environnementales qui disent « mangez moins de viande ». Accessoirement, c'est meilleur pour votre santé, mais c'est surtout meilleur pour la santé de la planète.
Et puis, lorsque l'on parle d'indépendance agricole, Jean-Marie Pelt le rappelait, mais quand même, d'où vient le soja ? D'où vient aussi une grande partie du maïs ?
Oui, exactement. Et puis en plus, aujourd'hui, l'essentiel du soja, je crois 80% du soja cultivé dans le monde, sert à nourrir des animaux d'élevage. Donc on marche quand même un peu sur la tête. Alors toutes les viandes ne se valent pas, hein, au sens où il faut 10 kg de céréales pour produire 1 kg de viande bovine. Par contre, il en faut un peu moins, la moitié, 5 kg, pour produire 1 kg de viande de porc. Et encore moins, 2 kg pour produire 1 kg de viande de poulet. Donc ça donne une idée, je vais en reparler tout à l'heure, mais du fait que du coup, on peut aussi arbitrer entre les différentes viandes et qu'en gros, le poulet, a fortiori s'il est fermier, mais même s'il est de batterie, va avoir moins d'impact sur l'environnement en tout cas, que le porc, qui va avoir moins d'impact que le bœuf. En gros, la viande rouge, le bœuf et tout ce qui est apparenté au bœuf, c'est-à-dire le veau, les laitages, etc., c'est le pire.
Alors, puisque nous comptons nos consommations d'énergie et puis nos émissions de CO2 dans cette séquence, avec vous, Elisabeth, qu'est-ce que l'on peut dire sur la viande, sur le steak ?
Ce qu'on peut dire, c'est que du coup, comme on a recours à l'agriculture intensive pour élever, d'abord pour produire le maïs, le soja, évidemment, oui. et puis ensuite pour élever l'animal, parce qu'il y a des entrepôts, etc., des trucs assez énormes, au final, on a tout au long de la chaîne qui va arriver au steak, si je puis dire, et à votre assiette ou la mienne, on a des étapes qui sont très consommatrices d'énergie et très émettrices de CO2. Donc il faut fabriquer les engrais, les pesticides pour cultiver le maïs et le soja. Il faut mettre du pétrole dans le tracteur, si je puis dire. Mmh. Il faut éclairer, chauffer les entrepôts, les hangars quasiment où vivent les animaux. Il y a toute une série de machines qui consomment également de l'énergie, etc., etc. Et puis les animaux eux-mêmes, notamment les bovins, génèrent des nombreuses émissions de gaz à effet de serre.
Alors, principalement en ruminant, d'ailleurs,
hein, oui, alors,
avec les rots des
oui,
vaches.
Oui, c'est ça. Il y a les rots et autres, et autres émanations du système digestif des ruminants qui produisent du méthane, qui est quand même un gaz qui a beaucoup plus d'impact sur le changement climatique que le CO2, 23 fois plus. Oui. Et puis, accessoirement, il y a aussi un autre gaz qui s'appelle l'hémioxyde d'azote, qui émane, lui, du fumier ou du lisier, qui a aussi un impact sur le climat, 296 fois, cette fois, plus fort que le CO2.
Alors, Elisabeth Laville, on sait qu'aujourd'hui, les terres arables diminuent parce qu'il y a une érosion des sols, parce qu'il y a une urbanisation un petit peu partout. Que représente l'élevage ?
L'élevage, alors directement ou indirectement, c'est-à-dire via les céréales, les cultures intensives de céréales qu'on produit pour nourrir des animaux, occupe les
pas
trois.
Seulement les pâturages.
Non, voilà, c'est ça. C'est pas juste les vaches qui pèsent, qui d'ailleurs, dans l'élevage industriel, ne pèsent pas tellement. Mais l'élevage occupe au total les trois quarts des terres agricoles mondiales. Ça pose d'autres problèmes d'ailleurs en termes de CO2, c'est que dans les pays du Sud, au Brésil, en Amazonie, etc., on coupe la forêt en fait pour cultiver du soja, etc., intensif, pour nourrir des animaux. Et du coup, évidemment, ça dégrade les sols, ça contribue à l'érosion, etc. Mais surtout, ça amoindrit la capacité de séquestration de CO2, parce que les arbres qui existaient là avant, eux, avaient la capacité de capter du CO2.
Alors, Elisabeth, pour ne pas totalement désespérer nos amis bouchers qui nous écoutent, nos amis éleveurs dans le Cantal ou ailleurs, en plus qui font de la très bonne viande, qu'est-ce qu'on peut faire ?
On peut, quand on mange de la viande, préférer les viandes qui ont moins d'impact sur l'environnement déjà, c'est-à-dire préférer les viandes produites localement, donc justement par, si vous dialoguez avec votre boucher, il vous dira, là il y a...
Elle vient du Limousin, elle vient d'à côté.
Exactement, petites exploitations, ce qui limite le transport. Si vous avez de la viande locale, par définition, elle a moins voyagé, donc moins de CO2. On peut favoriser les viandes moins intensives en CO2, donc je l'évoquais tout à l'heure, le poulet, le canard, le porc, sur celles qui nécessitent beaucoup plus de consommation d'énergie et donc génèrent davantage de contributions, une plus grande contribution au changement climatique, type bœuf, agneau, mouton ou veau. Et puis de toute façon, on peut se souvenir aussi que les médecins recommandent de ne pas dépasser 75 à 100 grammes de viande par jour, donc c'est beaucoup moins que le moindre steak que vous achetez vous-même ou au resto. Et donc, on peut du coup rejoindre Jean-Marc Jancovici qui dit qu'en fait, si on supprime 2 steaks par semaine, à la fin de l'année, on a économisé 50 kilos d'émissions de carbone.
Merci beaucoup, Elisabeth Laville. Et puis, donc, on retrouve tous ces propos dans Achetons responsable aux éditions du Seuil. À très bientôt, Elisabeth, et bon steak.
Merci, Denis. À bientôt.
puis aussi un site, hein, www.mescoursespourlaplanete. Tout collé. Oui, je sais, on fait des fautes comme ça, mais mescoursespourlaplanete.com. Donc là aussi, le site d'Elisabeth Laville qui est tout à fait intéressant. Un petit mot de nos amis de Politis, qui d'abord qui ont fêté leurs 20 ans et qui sont quand même très en avance depuis pas mal de temps sur les problèmes environnementaux, avec un excellent reportage cette semaine de Claude-Marie Vadreau, qui est allé donc du côté de l'Argentine. Et là aussi, bah, vous avez, bah, on se doute bien, un peu des petits soucis, mais ça pose bien les problèmes environnementaux mondiaux. Merci à Claudine Lapersonne et à Stéphanie Coulon qui étaient aujourd'hui à la technique, à Jean-Christophe Pinaza, à Jean-Baptiste Audibert et à Xavier Pestugia.